Radio Prague, les informations.
Le conseil exécutif de l'ODS discute de l'affaire Mirek Topolánek. Le nombre de voyageurs de l'aéroport de Prague devrait augmenter et Pavel Nedvěd participera au semi-marathon de Prague. Bonsoir. Le conseil exécutif du Parti civique démocrate est réuni ce jeudi pour discuter sur l'affaire déclenchée par les déclarations de son leader, Mirek Topolánek. Ses déclarations sur l'Église, sur les origines juives du Premier ministre et sur l'homosexualité du ministre des Transports, Gustav Slamečka, sont considérées comme scandaleuses. Mais il est peu probable que la réunion de l'organe suprême de l'ODS puisse ébranler la position de Topolánek qui a décidé de rester son leader. Le seul organe qui pourrait décider de son départ et le congrès de l'ODS, Topolánek avait tenu ses propos de manière informelle lors d'une séance photo pour un magazine gay, lui. Et toujours Mirek Topolánek qui a qualifié l'actuel Premier ministre de faible dans un entretien pour le journal Hospodářské noviny. C'est pourtant lui qui avait proposé de mettre à la tête du gouvernement intérimaire le chef de l'Office tchèque des statistiques, ce que je reproche à Jan Fischer, parce que sinon je l'aime bien et je pense qu'il a rempli ce qu'on attendait de lui pendant les 4 premiers mois, c'est de ne pas avoir pris de mesures exécutives radicales quand il en avait la possibilité. Je lui reproche d'avoir choisi une voie facile qui lui offre une popularité immédiate, a expliqué le chef du Parti civique démocrate. De son côté, Jan Fischer a répondu qu'il avait cessé de s'intéresser aux déclarations de Mirek Topolánek et le fils de Jan Fischer, membre du Parti civique démocrate, a par ailleurs annoncé son départ du parti. L'aéroport de Prague-Ruzyně augmentera sa capacité d'accueil de 3,5% pour 9 800 000 passagers à partir de cet été. Le nombre de liaisons opérées sera à peu près le même qu'en 2009. L'aéroport assurera les vols vers 131 destinations dans 51 pays du monde. L'aéroport va élargir le réseau de compagnies low cost avec notamment EasyJet et Smartwings qui vont ouvrir entre autres une nouvelle ligne Paris-Prague. Et une découverte archéologique a été faite sur la commune de Radek na Nizou, dans la région de Liberec. Il s'agit d'un squelette qui daterait d'environ 700 ans. Les archéologues ont pensé au départ à une femme ou une sorcière, la position du squelette étant extrêmement rare, couchée à plat ventre derrière le mur du cimetière. Pour les archéologues tchèques, la découverte est unique, très peu de squelettes dans les mêmes conditions ayant été retrouvés. Il s'agit en réalité d'un homme qui mesurerait 1,70 m, ce qui est exceptionnel au 14e siècle. Et plus de 200 artistes représenteront la République tchèque lors de son jour national dans le cadre de l'exposition universelle qui a été choisie pour le 17 mai prochain dans le cadre de l'Expo 2010. Danseurs, musiciens, plasticiens tchèques feront donc le déplacement en Chine pour cette journée. Et la participation du footballeur Pavel Nedvěd, ballon d'or 2003 au semi-marathon de Prague, a été confirmée ce jeudi par les organisateurs de la course. Le semi-marathon de Prague aura lieu ce samedi. Après une carrière de presque 22 ans, au cours de laquelle il a notamment fait les beaux jours des clubs italiens de la Lazio de Rome et de la Juventus de Turin, Pavel Nedvěd a pris sa retraite l'année dernière. Et en météo, vendredi, jour des Emmanuels, le temps restera printanier avec un ciel dégagé et des températures maximales entre 17 et 21 degrés. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute d'une nouvelle édition des Faits et événements. Voici les titres de l'actualité. Prague accueillera début avril la cérémonie de signature du traité russo-américain START. Pour parler de l'événement qui fait la une des journaux, Radio Prague a joint le politologue Jan Eichler. Ce sera juste avant de parler d'une exposition exceptionnelle consacrée au patron des pays tchèques Saint Venceslas, inaugurée ce mardi au Musée national. Culture toujours, le chorégraphe canadien Eric Trottier a créé un spectacle pour l'ensemble du ballet national à Ostrava, une production pour laquelle il a utilisé la musique du célèbre groupe irlandais U2. Vous l'entendrez dans un instant et puis ce sera encore notre habituelle rubrique, le miroir de la société. Nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. La signature de l'accord entre les États-Unis et la Russie sur le désarmement nucléaire se fera donc à Prague, vraisemblablement le 8 avril prochain. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Alexis Rosenzweig a joint par téléphone Jana Eichler de l'Institut Pragois pour les relations internationales.
Jana Eichler, pourquoi, selon vous, est-ce que Prague a été choisie pour cette cérémonie de signature?
Tout d'abord, il faut se rappeler le fait qu'il y a presque un an, quand l'actuel président des États-Unis, le 44e dans l'histoire des États-Unis, Barack Obama, est venu spécialement à Prague pour y présenter son fameux Prague Speech, dans lequel il a présenté sa vision du monde dénucléarisé, du monde sans armes nucléaires. Et peut-être le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'avril, peut être une bonne occasion pour rappeler le premier anniversaire de ce fameux speech.
Est-ce que c'est...
En plus, il y a un autre facteur, c'est un facteur géopolitique. Prague se trouve exactement au milieu du vieux continent, c'est un centre géopolitique de l'Europe.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous, pour Prague?
Ah, tout à fait, c'est vraiment une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Je me permets de vous rappeler le fait qu'il y a quelques 23 ans, quand on a signé à Genève une déclaration commune entre Gorbatchev et Ronald Reagan, d'après laquelle la guerre nucléaire ne pouvait jamais être déclenchée, elle n'aurait pas des vainqueurs. Et deux ans plus tard, il y avait la signature du traité de Washington, d'après lequel on a annulé toute une catégorie d'armes nucléaires, c'est-à-dire les armes nucléaires de moyenne portée. Et cela est rentré dans l'histoire. Et j'en suis convaincu que même la signature de ce traité américano-russe peut aussi entrer dans l'histoire moderne de l'humanité qu'on aura parlé et qu'on parlera toujours d'un accord ou d'un traité de Prague.
Alors, il y a eu des réactions positives, mais aussi des réactions négatives à Prague, où on craint d'être perçu comme un pays neutre. Et ce n'est pas ce que souhaitent beaucoup de responsables politiques qui souhaitent être définitivement ancrés à l'Ouest et ne pas être un pont entre l'Est et l'Ouest.
Ah oui, mais c'est plutôt une construction sociologique, une construction qui ne correspond pas à la vraie réalité. Ça ne signifie pas que la République tchèque va quitter l'Alliance Atlantique après cette signature. Ça ne signifie pas du tout que la Fédération russe va réclamer le territoire de la République tchèque dans son sphère d'influence. La République tchèque va rester dans l'OTAN et la signature d'un traité américano-russe ne va rien changer, rien du tout.
Est-ce que cette cérémonie souhaitée à Prague peut être perçue comme une sorte de dédommagement pour la rupture du traité entre Washington et Prague sur le radar qui ne va plus être installé sur le territoire tchèque?
Ah oui, ça peut être perçu comme ça, mais d'après mon avis, il faut le voir dans un contexte géopolitique plus large et dans un contexte aussi historique. Il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis de l'administration Bush à cause de ses attitudes très confrontationnelles vers la Russie contemporaine. Il y avait même des craintes que si ces tendances avaient continué, cela aurait peut-être pousser les Russes plutôt vers la coopération plus étroite avec la Chine, avec le régime comme à Téhéran ou avec Venezuela et les autres. Si on le voit donc dans ce contexte global, ça peut être une chance d'atteindre un petit peu cette tendance négative, d'approfondir la coopération entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, ce qui est toujours favorable pour la détente internationale, pour la paix et pour la sécurité mondiale.
C'était Jana Eichler de l'Institut Pragois des Relations Internationales au micro de Radio Prague. Le prince Venceslas, saint et souverain, le titre d'une nouvelle exposition inaugurée mardi au Musée national de Prague. Elle est consacrée au prince de Přemyslid, symbole de la continuité de l'État tchèque depuis sa martyre en 835, mais aussi saint, patron et source d'inspiration artistique, comme en témoignent les objets exposés, certains pour la première fois au musée. Le public n'a que 6 semaines pour les admirer. L'exposition présente un rare ensemble de manuscrits illuminés du Moyen-Âge, ainsi que d'autres œuvres d'art consacrées à saint Venceslas. Parmi celles-ci figure la réplique de sa statue qui orne depuis 1373 la cathédrale Saint-Guy. L'exposition n'est pas grande par ses dimensions. Le tout se trouve en effet dans 2 salles obscures, mais derrière les vitrines de protection brillent ces fameux manuscrits et autres objets inspirés par saint Venceslas, personnage emblématique de l'histoire tchèque et européenne, comme l'a souligné lors de l'inauguration le directeur du musée national, Michal Lukeš.
Naším úmyslem je v návštěvníkovi vyvolat pocit, že vstoupil do klenotnice.
Notre intention était de provoquer chez le visiteur le sentiment qu'il se trouve à l'intérieur d'une joaillière et qu'il découvre un mystère, celui des splendides manuscrits illuminés et d'autres objets créés sur le thème de saint Venceslas.
A dalších předmětů se svatovázlavskou tématikou.
Tous les manuscrits consacrés à saint Venceslas ont été créés il y a plusieurs siècles de cela sur le territoire du royaume de Bohême, mais tous n'y sont restés. Une importante collection se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale d'Autriche à Vienne, qui prête ses biens pour l'occasion à Prague. Le manuscrit le plus précieux exposé provient quant à lui d'une collection privée du consortium bancaire Unica de Vienne. Il s'agit d'un codex richement illuminé intitulé « La vie et le martyr de saint Venceslas ». La commissaire de l'exposition, Marta Vaculínová, nous le présente.
Le manuscrit a été peint sous le règne de l'empereur Rodolphe II à la fin du XVIe siècle. On ignore pour l'instant les noms de ses auteurs, tout comme on ne sait pas très bien qui l'a commandé. Les hypothèses selon lesquelles Rodolphe II aurait été le propriétaire du manuscrit ont cédé la place à une nouvelle hypothèse, selon laquelle le manuscrit aurait été commandé par une riche aristocrate dont le portrait figure en première page, en face du personnage de saint Venceslas.
Parmi les manuscrits exposés, la dominante est un objet en 3 dimensions installé juste en face de l'entrée. On écoute Marta Vaculínová.
Skutečným skvostem je stříbrná ostatková bysta svatého Václava, zapůjčená z pražské metropolitní kapituly.
Un des vrais bijoux de cette exposition, c'est le buste reliquaire en argent doré de saint Venceslas, emprunté au chapitre métropolitain de Prague. Si vous me demandiez quel est le plus grand objet de cette exposition, je répondrais que c'est incontestablement la statue équestre de saint Venceslas qui se dresse en haut de la place du même nom devant le bâtiment du musée national.
La présente collection de manuscrits proposée jusqu'au 2 mai ne sera probablement plus jamais exposée au public. Elle est aussi l'avant-dernière exposition que le Musée national expose avant la fermeture de son bâtiment historique en raison des travaux de restauration. Comme je vous l'ai dit en titre, le chorégraphe canadien Éric Trottier a créé un spectacle pour l'ensemble de ballet du Théâtre national de Moravie et de Silésie dans la ville d'Ostrava, Moravie du Nord. Pour cette production qui apporte un élément nouveau dans le répertoire du théâtre, le chorégraphe a utilisé la musique du célèbre groupe irlandais U2. Il s'en est expliqué au micro de Jana Hoviatska, journaliste du studio régional de la radio publique tchèque à Ostrava.
Ben pourquoi U2? La raison est simple, c'est que je suis fanatique de U2 depuis mon enfance. J'ai 40 ans, fait que je suis la première génération de U2. J'avais 12 ans, j'écoutais Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, et puis ça a toujours resté jusqu'à aujourd'hui. Je les ai vus 4 fois sur scène, ça fait déjà 30 ans maintenant, pas loin, 30 ans. Et puis c'est un de mes groupes préférés. U2, c'est ma génération, c'est moi, c'est ma génération.
U2, je comprends, mais pourquoi U2 à Ostrava?
Pourquoi U2 à Ostrava? C'est assez simple, c'est que que comme j'ai regardé le répertoire de la compagnie, ils ont comme dans leur répertoire les Beatles, ils ont aussi The Doors, et c'est comme une genre de petite tradition dans la compagnie de faire sur des groupes ou sur un thème musical. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, comment faire YouTube?
Donc vous avez commencé à travailler ici avec des danseurs. Il y avait des barrières, je pense, barrières langue.
Il y a des barrières toujours, barrières de langage, c'est sûr. Ouais. Mais il y avait une barrière aussi chorégraphique. C'est des danseurs qui ont une technique classique, qui sont des danseurs qui ont une formation classique. Ici, ils dansent plutôt que du classique. Un peu de moderne, un peu contemporain avec Igor, mais quand même, ça reste assez classique.
C'est donc sûr. Vous êtes quel chorégraphe?
Je suis contemporain, je suis un chorégraphe d'aujourd'hui, je suis pas un chorégraphe il y a 100 ans. Habituellement, je travaille côté chorégraphique très différemment que je travaille ici. Ici, c'est des danseurs qui font du répertoire, ça veut dire ils font pas tellement de création, pas vraiment, ils en font, c'est sûr. Ouais. Mais ils sont pas des danseurs, ce qu'on appelle de théâtre, ça veut dire ils font, tu leur dis tu vas là et tu fais ça. Non? Et moi, je travaille pas comme ça. Je travaille avec l'improvisation. Je laisse les danseurs chorégraphier eux-mêmes, souvent. Il faut toujours être sûr que les danseurs te comprennent ton idée de base. Et comprennent qu'est-ce que toi tu veux.
Et comment vous faites? C'est difficile de transmettre vos idées.
C'est difficile ici parce qu'il a fallu que je donne tout à la cuillère. Comme un bébé. Et ça, c'était assez difficile. Au début, aussi pour moi, c'est assez difficile parce qu'il faut que je change. Il faut que je revienne à l'ancienne méthode de dire, on fait ça sur un, et après sur trois et sur cinq. Moi, je compte plus la musique depuis longtemps. Je compte plus ça. Même si j'ai fait un truc de groupe. Et puis ici, ils sont habitués à un autre système, c'est notre répertoire. Fait que d'amener les danseurs à les faire changer. Et moi aussi. Parce que je peux pas dire, vous faites ce que je veux. Parce que je vais que perdre. Il faut que je gagne. Fait que pour gagner, il faut quand même que je prenne aussi leur force, de où eux, ils sont bien. C'est pas que de dire, vous faites ce que moi je dis, et le reste, on s'en fout. Non, pas vrai, non. Il faut quand même avoir le respect de qu'est-ce qu'eux, ils sont, qu'est-ce qu'ils font comme travail, et de là, essayer de mettre les deux ensemble. Ouais. Et c'est difficile, mais ça, on y arrive, hein, on y arrive.
Quelle chanson vous avez choisie et quelle est la dramaturgie de spectacle?
La dramaturgie du spectacle commence par YouTube à 30 ans, c'est trois générations. Fait que j'ai trois personnes qui ont les rôles principaux dans un sens, qui sont trois personnes qui sont la même, mais de différents âges. J'ai un pianiste qui est pas âgé, il a 60 ans, c'est pas vieux. J'ai un gamin de 13 ans et j'ai Lucas qui a 25. Fait que j'ai trois générations totalement différentes. Les trois sont la même personne, l'âme de YouTube. Et je commence par l'envers, ça commence par aujourd'hui et je finis par le début. C'est pas les quatre mecs de YouTube que je parle, c'est pas ça. C'est YouTube l'âme, leurs textes, qu'est-ce qu'ils écrivent, leur vie à eux. Je connais leur vie, je suis fanatique, hein. Bon, je connais tout de YouTube. Leur vie, leur façon de penser, leur côté environnemental aussi, leur côté politique, un peu. Je parle pas de ça, pas trop politique, mais ça aide à créer. Ça aide à créer. Tu comprends les textes après, et je crée sur les textes même. Je crée sur les textes même de YouTube.
C'était les faits événements. Merci de les avoir écoutés. Restez avec nous pour la suite du programme sur Radio Prague.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Communiquer avec les administrations publiques représente une tâche assez pénible pour tout un chacun, mais elle l'est beaucoup plus encore pour les personnes souffrant d'un handicap. Trois ONG se sont concertées avec la municipalité d'un arrondissement de Prague en vue de mettre sur pied un projet intitulé « Nous aussi, nous sommes des citoyens » dont l'objectif consiste à améliorer l'accueil des personnes handicapées mentales et de personnes souffrant de maladies psychiques.
Thank you.
L'accès à l'information, l'information écrite, mais l'information orale aussi. Tels sont les principaux problèmes que les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou encore les personnes âgées affrontent le plus souvent. Camille Latimier, une des promotrices du projet qui a pour objectif d'améliorer la situation de ces personnes en ce qui concerne leur communication avec les administrations, dirige l'association de soutien des personnes handicapées mentales. Nous lui avons demandé de bien vouloir comparer la situation qui existe dans ce domaine en Tchéquie et dans son pays d'origine, la France.
Alors je dois dire que je pense qu'il y a beaucoup de difficultés en France aussi, mais je dois dire que je me suis un petit peu inspirée pour ce projet d'une bonne pratique qui vient de l'UNAPI, qui est l'Association française des parents de personnes handicapées, qui a fait reconnaître un logo pour les personnes handicapées mentales comme le logo des personnes handicapées en chaise roulante que nous connaissons tous pour le parking. Et à travailler avec l'AFNOR, donc l'Association française de normalisation, pour faire reconnaître ce logo dans les administrations. Et l'UNAPI organise justement des formations pour les personnes qui travaillent dans l'administration. Et ce logo n'est apposé qu'une fois que ces personnes ont assisté à la formation. Pardon. Et... il s'agit en général d'une personne dans l'administration qui a donc ce logo apposé et qui indique donc aux personnes handicapées mentales et à leurs familles qu'elles peuvent venir et s'adresser à des gens peut-être plus compétents pour faire face à leurs difficultés ou à leurs questions tout simplement.
Vous dirigez l'association d'aide aux personnes handicapées mentales.
Alors j'ai commencé un petit peu par hasard en fait parce que je travaillais sur les questions de non-discrimination et les droits de l'homme, c'est ma spécialité à la base. Et j'ai travaillé au niveau européen pendant un certain temps et j'y travaille toujours d'ailleurs pour l'Association européenne des personnes handicapées mentales. Et par mon travail européen, j'ai rencontré le président de l'association tchèque, Ivo Vikidal, et il m'a proposé à un moment donné de prendre la direction du secrétariat ici à Prague de l'association nationale en fait. Donc voilà, c'est par notre rencontre personnelle à tous les deux et ça fait maintenant 6 ans que je travaille dans ce milieu-là en fait.
Puis je vous demandais quels sont les problèmes essentiels que vous rencontrez dans votre travail en Tchéquie.
Alors l'accès à l'information est un problème très important pour les personnes handicapées mentales d'une manière générale, pas seulement dans l'administration, mais pour tout en fait. Et on se rend compte à quel point comprendre l'information qui est donnée est un élément tout à fait essentiel. Pour moi, les deux questions principales à l'heure actuelle, ce sont l'éducation. Malheureusement, nous nous battons pour une éducation inclusive afin que les personnes handicapées mentales puissent aller dans les écoles ordinaires et non pas dans les écoles spéciales pour qu'elles puissent grandir avec leur père, avec des enfants non handicapés et pas dans un monde un petit peu artificiel où il n'y a que des personnes handicapées. C'est un thème qui est encore très difficile, qui s'ouvre très difficilement ici. Il y a beaucoup de résistance parce qu'on pense que la qualité de l'enseignement est meilleure en école spéciale qu'en école ordinaire. Mais il est vrai qu'il n'y a pas encore les moyens, mais nous nous battons pour que les moyens soient mis en œuvre afin que l'école ordinaire offre vraiment un soutien aux enfants handicapés mentaux. Sinon, la deuxième question, notre deuxième grand cheval de bataille, c'est la question de la capacité juridique des personnes handicapées afin qu'elles ne soient plus mises automatiquement sous tutelle. C'est un gros problème à l'heure actuelle ici. Malheureusement, dans les tribunaux, dès qu'une personne handicapée mentale arrive et qu'il y a une demande, elle est souvent mise sous tutelle sans réelle évaluation de ses capacités, de ce qu'elle est capable de faire dans sa vie quotidienne. Et malheureusement, une personne mise sous tutelle perd énormément de droits, notamment le droit de vote, le droit de se marier et un certain nombre de droits qui pour nous n'ont pas de rapport avec l'institution de la tutelle qui est censée protéger plus, on va dire, l'aspect financier ou matériel de la personne. Que quelqu'un, on lui retire son droit de se marier tout simplement parce qu'elle a un handicap mental nous semble être une violation des droits de l'homme assez importante. Mais il y a des progrès, nous avons une réforme en préparation au ministère de la Justice et donc nous espérons qu'elle sera bientôt mise en œuvre, acceptée et mise en œuvre.
Peut-on dire que la Turquie a un certain retard à attraper par rapport à l'Europe dans ce domaine ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas, disons, c'est difficile. Il y a des pays, il y a des choses qui bougent, les choses changent. Je crois qu'il y a une situation en Europe centrale qui est assez comparable entre tous les pays. Ainsi, vous allez en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, on retrouve un héritage aussi dû à l'ancien régime qui a beaucoup affecté les personnes handicapées mentales, qui est considérée non éducable. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne et l'Autriche qui sont voisins, on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, mais nous travaillons beaucoup avec les pays voisins justement pour aller voir comment ça se passe et voir quelles bonnes pratiques ou mauvaises pratiques nous ne devons pas copier ou desquelles nous pouvons nous inspirer. Donc voilà, mais il y a encore du chemin à faire, mais je dois dire que dans l'ensemble les choses quand même avancent.
La réalisation du projet « Nous aussi, nous sommes des citoyens » qui est soutenu par plusieurs bourses européennes sera d'abord testé par la municipalité d'un arrondissement de Prague avant de s'étendre à d'autres administrations et institutions.
Fin du programme en français sur Radio Prague. Merci de votre fidélité. L'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.